Bienvenue sur Timbre FM sur le 106.6 dans cette première émission Contre-champ, une émission sur le cinéma abordant des sujets allant d'une rétrospective particulière à un thème regroupant plusieurs films sur celui-ci. Allez, c'est parti.
C'était pas ma guerre!
Bienvenue dans Contre-champ, l'émission de cinéma parlant cinéma présentée par un cinéphile. Aujourd'hui, on va aborder l'un des genres cinématographiques que j'apprécie le plus, le western. On peut repérer trois grandes périodes dans l'histoire du western. La première est le western classique américain, débutant au début du XXe siècle, jusque dans les années 60. La seconde, le western spaghetti, au début des années 60 jusqu'aux années 70. Et la troisième, le western crépusculaire qui chevauche la période des western spaghetti et qui va mener au western moderne. C'est un genre du cinéma typiquement américain qui au tout début était contemporain de son époque, pour ensuite devenir au fur et à mesure du temps de plus en plus codifié et éloigné de la réalité, pour en créer une nouvelle à esthétique reconnaissable entre mille. Des paysages désertiques, de grandes montagnes au loin, des villages vite peuplés de pauvres paysans mexicains. Voilà, maintenant que le décor est planté, on peut y aller. Si l'évocation du mot western fait penser aux incontournables Sergio Leone ou aux nombreux films avec John Wayne, il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps pour voir l'origine des iconiques cowboys que l'on a aujourd'hui. Plus précisément en 1899, quelques années seulement après l'invention du cinéma et en pleine fin de vie de la période des vrais cowboys. C'est à ce moment-là qu'arrivent les premiers films ambiance westernienne, avec des courts-métrages d'une dizaine de minutes, muets et en noir et blanc, installant les prémices des westerns que l'on connaît aujourd'hui. Dans ceux-ci, on peut citer par exemple Cripple Creek Barroom Scene ou Poker at Dawson City, les premiers films du genre en 1899 qui placent leur contexte dans un saloon, inaugurant la convention des jeux de cartes et de la rasade de whisky, obligatoire depuis dans ce genre de film. En 1902, Thomas Edison et Edwin Staton Porter filment le premier western avec un train. C'est un spot publicitaire de 3 minutes nommé Romance of the Rails. C'est l'histoire d'une femme qui rencontre un homme dans un train et ceux-ci tombent amoureux et se marient à la fin. Ce film introduit les larges plans de train dans le désert que l'on connaît aujourd'hui. Ce même Edwin Staton Porter qui un an plus tard fera le premier vrai film de cow-boy avec une histoire qui donnera naissance au genre western. Le vol du Grand Rapide dure 11 minutes, muet et en noir et blanc. Il raconte l'histoire de bandits attaquant un train, pillant des richesses, se bagarrant pour et s'enfuyant par le toit, la garde aux trousses. On y retrouve une bonne partie des éléments des westerns que l'on connaît aujourd'hui, la troupe de bandits, les attaques de train, les gunfights, les chapeaux et même la dynamite. Cette même année, décidément très productive pour le western, voit un nouveau film précurseur débarquer, The Pioneers, un film de Wallace McCutcheon, durant 15 minutes, toujours muet et en noir et blanc, racontant l'histoire sombre d'une famille de pionniers dans leur maison qui se font attaquer par les Indiens. Le père et la mère sont massacrés. Leur fille est faite prisonnière par les sauvages. Heureusement pour elle, les trackers la retrouvent et massacrent les Indiens avant d'être sauvés pour venger la famille défunte. C'est le premier film avec Kit Carson, sorti la même année, du même réalisateur, à introduire les Indiens en tant que méchants de films et de western. Les Indiens deviennent rapidement la menace principale de ce genre de film, jusque dans les années 20, notamment avec des films de David Wark Griffith, entre autres The Last Drop of Water et Fighting Blood, tous deux de 1911, et The Battle of Uldenbush Gulch de 1914, qui dépeint un portrait peu reluisant du peuple steppe. D.W. Griffith est d'ailleurs le premier cinéaste à évoquer la guerre de sécession dans le western, entre autres avec le célèbre Birth of the Nation de 1915. Bref, revenons aux Indiens. Dans cette période où l'on les désigne comme ennemis, sauvages et irresponsables, quelques films commencent à contraster le propos. The Earth of the Indian, en 1912, réalisé par Thomas Harper Innes, nous montre des Indiens capables d'avoir des sentiments humains et un instinct maternel. The Last of the Mohicans de 1920 nous montre le combat d'un Indien aux côtés des Blancs contre un traître. Pale Face en 1921 montre l'inverse, l'intégration d'un Blanc parmi les Peaux-Rouges. En 1924 sort Le Cheval de Fer de John Ford, dans lequel est montrée la facilité avec laquelle l'Indien est désigné comme ennemi et diabolisé, alors que ce sont les Blancs qui sont en tort. Je vous propose, avant de continuer, d'écouter Cattle Call de Sons of Pioneers, utilisé dans le film Rio Grande de John Ford.
When the cattle are growling and the coyotes are howling under the western sky, a cowboy is singing, his spurs are a-jingling as down the trail he rides.
Nous sommes toujours sur Timbre FM en 66.6 dans Contre-champ. Nous venons d'écouter Cattle Call dans le film Rio Grande de John Ford. Donc pour continuer, nous étions en 1927. Un événement révolutionne le western, mais que dis-je, le cinéma parlant vient d'être inventé. Plus question de faire des films muets, place à la parole. Le premier western parlant est In Old Arizona de Raoul Walsh en 1929. Et l'année d'après, La Piste des Géants, notamment célèbre pour être le premier film avec John Wayne. Des années 30 aux années 40, la plupart des westerns furent appelés Western B, une sous-catégorie dont les caractéristiques étaient qu'ils ne coûtaient pas cher. Enfin, pour les standards américains, ça veut dire environ 10 000 dollars. La production était très rapide, il pouvait être tourné en quelques jours seulement. L'histoire était pratiquement la même d'un film à l'autre. Et les personnages étaient manichéens au possible, c'est-à-dire qu'ils étaient tout bons ou tout mauvais. Quelques exemples de ces films sont La Légion des Damnés de King Vidor en 1936, Femme ou démon, en 1939, réalisé par George Marshall. Ou encore une des figures iconiques que petits et grands connaissent, un justicier masqué sur un cheval noir qui, de pointe de son épée, signe ses méfaits d'un Z, qui signifie Zorro. Et oui, cette icône de la culture populaire est apparue dans Le Masque Zorro, un western B de Ruben Mamoulian, fait en 1940. En 1939, John Ford revient avec La Chevauchée Fantastique, un film qui remontera le niveau des productions des westerns de l'époque, et qui raconte l'histoire d'une diligence et de ses passagers qui rencontrent sur leur route un bandit gentilhomme joué par John Wayne, et ils devront arriver à leur destination en résistant aux dangers qu'ils rencontreront sur leur route. Commence alors une période de plénitude pour le western, une période dans laquelle ils vivent leur gloire à son apogée. Celle-ci va des années 40 aux années 50. À l'intérieur, les westerns se codifient de plus en plus, les personnages restent toujours aussi manichéens, certes moins que les westerns B, mais sont toujours aussi stéréotypés qu'avant. Les gentils sont des hommes de loi, comme dans Règlement de compte à Oak Corral de 1957, ou encore des cow-boys gentilhommes comme l'archétype de John Wayne. L'armée est généralement montrée comme héroïque et bienfaisante. Un exemple parlant est dans le film La Charge Héroïque, réalisé par John Ford en 1949. Les femmes n'ont pas encore de rôle de femmes fortes à cette époque, elles sont montrées fragiles et ayant besoin d'être protégées, à l'image de Grace Kelly dans Le Train Sifflera Trois Fois de 1952. À quelques exceptions près, comme dans le film D'entrée de Toff en 1947, La Femme de Feu, qui représente une femme active qui prend des initiatives, ou encore Johnny Guitar, qui en 1959 met en scène deux personnages principaux féminins aussi farouches l'une que l'autre. Les méchants sont quant à eux tout aussi archétypés, des bandits en quête de vengeance, des indiens sauvages et sans pitié. Ces années ont tout de même été révélateurs de talent, et ont fait monter des personnes devenues figures emblématiques autant que leurs personnages, Lee Van Cleef, John Wayne, Gary Cooper, Henry Fonda, ou encore James Stewart. De plus, je n'ai parlé que de quelques films de cette époque, où la production de western est en plein boom. Donc voilà quelques autres pour réparer mon tort. La Poursuite Infernale de John Ford, Rio Bravo de Howard Hawks, La Porte du Diable d'Anthony Mann. En 1962, John Ford revient avec un autre film qui marquera les esprits, L'Homme qui tua Liberty Valance. L'histoire tourne autour d'un sénateur qui avoue devant un journaliste que toute sa campagne politique était tournée autour d'un mensonge. Ce n'est pas lui qui avait abattu le bandit Liberty Valance, mais un cow-boy anonyme. Film au message pessimiste sur l'avenir du western, genre vieillissant, à l'image du personnage de John Wayne, qui quelques années auparavant joue un héros fringant et qui est dans ce film un homme las et fatigué. Le western intéresse de moins en moins de monde à cette époque, mais il avait encore plusieurs choses à démontrer. Mais d'abord une petite pause musicale proposée par Louis Bacalov et Rocky Roubert avec le thème de Django. Et vous êtes encore sur Timbre FM au 106.6, toujours dans l'émission Contre-champ. Nous disions qu'à partir des années 60, la donne va changer. Fini les cow-boys blancs et propres, fini les personnages tout bons ou tout mauvais, fini les pré-justiciers, place à un nouvel âge. L'âge des anti-héros, de la brutalité, du dollar. Et c'est un jeune réalisateur italien de 35 ans qui va initier cette nouvelle période. En donnant un second souffle au western, ce jeune homme, c'est Sergio Leones, qui sort en 1964, 65 et 66 trois bombes consécutivement. Pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et le bon, la brute et le truand. Trois westerns donnant naissance à un nouveau genre, le western spaghetti. Une trilogie qui va révéler l'acteur Clint Eastwood, et qui a su réveiller l'intérêt du public pour le western. A noter que l'une des fâcheuses habitudes des western spaghetti, c'est de briser tous les tabous. On y parle de viol, de suicide, l'usage de drogue ou de la torture. C'est d'ailleurs un élément récurrent, le personnage qui se fait torturer est présent dans une grande majorité de ses films. Dans Django par exemple, un film de 1966, qui par ses scènes d'une extrême violence, est considéré comme l'un des westerns les plus violents jamais tournés. En 1967, sort dans les salles obscures, La mort était au rendez-vous. Un film de Giulio Petroni, qui raconte la vengeance d'un homme qui, enfant, a vu sa famille se faire tuer par un bandit. Le héros va alors le traquer pour se venger. Mais revenons donc à Sergio Leones, qui en 1969 réalise un des films les plus reconnus du genre, Il était une fois dans l'Ouest. Ce monument du cinéma a un scénario similaire à La mort était au rendez-vous, mais est aussi, à la manière d'un qui a tué Liberty Valance, une réflexion sur la fin des cow-boys au début du XXe siècle. À partir des années 70, une sous-catégorie de western fait son apparition. Le western dit crépusculaire. Celui-ci est bien plus violent que le spaghetti, il lui emprunte d'ailleurs ses personnages. Le western crépusculaire est souvent une réflexion sur le western. Il met aussi l'accent sur le collectif. Une bande ou l'armée sont souvent responsables des massacres. Désormais, le crime est organisé. En 1969, le film La Horde Sauvage de Sam Peckinpah définit les éléments de ce sous-genre, une chasse à l'homme dans laquelle on trouve une horde hyper-violente poursuivie par un homme de Pinkerton qui doit les retrouver. Sergio Leone, oui encore lui, remet le couvert sur la table en 1971 avec son dernier western, Il était une fois la Révolution. Un film sur la révolution mexicaine qui se passe en 1913, dans lequel il troque le cheval contre la moto et les explosifs. Il contient des scènes de répression du peuple d'une rare violence, typique du western crépusculaire. L'une des personnalités les plus connues de cette période, c'est Clint Eastwood, qui se retrouve cette fois-ci derrière la caméra. Il réalise plusieurs grands films de ce courant, comme par exemple José Walls hors la loi en 1976, L'homme des hautes plaines en 1973, ou encore Impitoyable en 1992. Le plus fou dans le western, c'est que ce genre cinématographique vieux de plus de 100 ans n'est toujours pas mort. Il n'y a qu'à voir des films plus récents comme Django Unchained ou Les 8 salopards de Quentin Tarantino, ou certains des films des frères Coen, True Grit ou No Country for Old Men, qui peut être considéré comme un western contemporain, ce qui est extrêmement rare. Depuis le début, le western inspirait des réalisateurs, qui ont pioché des morceaux de cette culture dans laquelle ils ont grandi. John Carpenter avec des films comme New York 1997, ou Los Angeles 2013, dans lequel il caste Lee Van Cleef, ou encore Robert Zemeckis dans Retour vers le futur 3, où il habille son héros Marty McFly comme Clint Eastwood. Pour dire l'influence de ce genre, il faut voir les bandes dessinées, comme avec Lucky Luke, de Morris, Blueberry, ou mon petit préféré, Undertaker, une BD que je vous conseille largement. Le jeu vidéo aussi a été touché par le virus du western. Prenez les jeux Red Dead Redemption, des studios Rockstar pour vous en convaincre.
I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding to the setting sun.
Dum-de-dum-dum.
Lonesome cowboy, you're a long, long way to roam, to roam, to roam.
Toujours sur Timbre FM au 106.6, avec la fin de la chronique sur le western, mais pas de l'émission. Donc on va passer tout de suite à la rubrique « Comment ça marche ?» dans laquelle je vais vous expliquer la répartition d'un ticket de cinéma. Donc si vous avez envie d'ouvrir un cinéma, ou si vous avez toujours voulu connaître où va l'argent de votre ticket de cinéma, vous êtes au bon endroit. Alors pour simplifier la chose, on va dire dès le départ, on va mettre une valeur de 8 euros pour le ticket. Pour commencer, on va répartir le prix du ticket entre le distributeur et l'exploitant de la salle, donc celui qui diffuse le film. 45,125% du prix du ticket va dans les poches du distributeur. Et 54,875% reste théoriquement à l'exploitant du cinéma. Mais c'était sans compter les taxes, sinon je ne le dirais pas. Alors, comme tout produit ou service, on a une TVA, une taxe sur la valeur ajoutée égale à 5,5%. C'est-à-dire que l'exploitant reverse 5,5% aux impôts du prix du ticket. Donc en gros, sur 8 euros, ça fait 0,42 euros. L'exploitant doit ensuite payer le CNC, donc c'est celui qui aide les projets artistiques, à hauteur de 10,72% du montant du ticket, soit sur 8 euros, 0,86 euros. Puis il doit reverser les droits d'auteur à la SACEM à la hauteur de 1,21% de la moitié du montant payé à la CNC. Donc, sur 8 euros, ça fait 0,08 centimes. Au final, sur un billet de vendu 8 euros, l'exploitant touche 3,36 euros, donc un petit peu moins de la moitié du billet. C'est pour ça que si un film ne fait pas d'entrée, c'est un échec commercial, parce que le film est remboursé avec l'argent des tickets de cinéma. Donc maintenant, passons à la chronique du cinéphile.
La chronique du cinéphile.
Et donc, le cinéphile d'aujourd'hui va nous parler d'un film nommé Slam. À toi.
Oui, bonjour. Alors, je suis venu parler d'un film en tant que cinéphile, je dirais plutôt cinéphage, parce que j'ai plutôt tendance à bouffer plein de films, autant des grosses daubes que des films de toute chatoyance. Et donc, j'ai dû remplacer au pied levé un certain Julien, hein, pour ne pas le citer, qui devait faire cette chronique. Et finalement, bon, eh ben, c'est moi qui m'y colle, mais c'est au pied levé. Donc, voilà, j'ai dû choisir un film qui m'a un petit peu marqué dans ma vie. Donc, effectivement, il s'agit d'un film que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Slam, donc tu l'as dit, Tom. Donc c'est un film américain sorti en 1998, réalisé par Mark Levin, je ne sais pas comment on dit, qui a reçu la caméra d'or au Festival de Cannes en 98, ainsi que le Grand Prix du jury au Sundance Film Festival la même année. Et donc Slam, comme son nom l'indique, est un film sur la passion des mots et leurs effets salvateurs, en fait. Puisque pour ceux et celles qui ne voient pas du tout de quoi je parle, le slam, c'est de la poésie urbaine et orale, déclamée, voire même scandée, que ce soit dans la rue, les bars, les cafés, les théâtres, tout ça. Bref, partout où celles et ceux qui le pratiquent ont envie d'arracher la parole de manière complètement libre, décomplexée et surtout ultra poétique. Le slam, c'est un peu le petit frère du rap, donc c'est pour ça que je l'aime bien, mais un peu plus à nu et sans instru, voilà, en gros quoi. C'est une discipline qui est sortie tout droit de la tête du poète américain Mark Smith en 86. Donc quand même à peu près 10 ans après l'arrivée du rap, avec la volonté de rendre les lectures de poèmes à la fois moins élitistes et moins ennuyeuses, quoi. Et donc une réappropriation aussi de la poésie par les quartiers populaires, par le peuple pauvre aussi, quoi. Et donc notamment aux États-Unis, les communautés noires américaines, quoi, entre autres. Alors pourquoi Slam Parce que c'est un film qui redonne un peu la vie aux mots et puis qui redonne des tripes à la poésie, en fait, un peu comme le slam en lui-même. Et parce que le slam dans ce film-là est porté par un acteur qui à la base n'est pas un acteur, qui est un slammer pour de vrai, qui cartonnait dans les buis new-yorkais, dans les bars et tout ça, avec ses textes et sa manière de scander, c'est Saul Williams. Donc Saul Williams qui après ce film-là, a sorti un album qui de cela, mais en fait c'est plutôt du rap, mais avec vraiment le flow qu'on retrouve dans ce film aussi, parce qu'il a un flow incroyable. Et donc le pitch de cette histoire, un certain Ray Joshua, un mec qui a un peu tout le temps la tête dans les étoiles, mais qui écrit beaucoup. Et qui est un dealer, voilà. Donc parce que il est clairement dans le ghetto américain. Je sais pas dans quelle ville d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être New York. Et il vit dans le ghetto et il va voir son dealer pour choper de la marijuana. Et ce jour-là, en fait, son dealer qui est lui est toujours, a toujours le cerveau moins fertile que le terreau sur son balcon pour faire pousser sa marijuana. Le dealer se retrouve en manque. Mais en manque de mots, parce qu'en fait, il aimerait bien entrer en contact avec une fille, voilà. Et il sait pas trop comment lui écrire un texte. Donc il demande à Ray, sachant que lui a l'amour des mots et compagnie, de lui écrire. Il lui fait une commande, en fait, hein, clé en main, d'une formule d'amour à refourguer à la jolie fille en question. Donc à peine le temps de réceptionner la marchandise, de ce texte, à savoir un texte qui dit à peu près « Tu caresses les reins de l'univers en tournoyant dans les airs, tu déposes des ombres sur le soleil ». Enfin bon, là c'est en français, mais en anglais ça sonne un peu mieux. Le dealer se fait buter par une balle qui arrive de n'importe où, on ne sait pas, et la police arrive et intercepte Ray Joshua, qui en plus détient de la marijuana sur lui, et donc se retrouve en prison. En prison, il se retrouve confronté à la violence, à tout ce qui est un peu compliqué en prison aux États-Unis. Il se retrouve entre des guerres de gangs et tout ça. Il doit choisir son camp. Et en fait, il rencontre Lorraine qui dispense des cours d'écriture aux détenus. Et qui s'aperçoit que ce mec-là a un énorme talent, un énorme potentiel, et donc lui dit que ça peut être sa porte de sortie vraiment pour quitter le quartier, la prison et tout ça. Et donc il est en condition, il se retrouve en conditionnel, donc il sort de prison et puis effectivement il va aller dans les bistrots où entre guillemets les bobos se rassemblent autour de cette pratique du slam, et là il va tout déchirer, et donc voilà, il cherche un peu sa voie par rapport à ça. Voilà, en gros, hein, c'est un peu long, mais c'était censé être une chronique courte, finalement, voilà, je blablate. C'est un film qui est hyper intéressant, du fait aussi que, et c'est pas pour rien qu'il a eu la caméra d'or au film de Cannes, c'est qu'il est vraiment... Marc Levin, c'est un réalisateur qui est documentaliste, et donc c'est un film qui est vraiment tourné en mode film docu, quoi. Film documentaire avec vraiment caméra à l'épaule et compagnie, et donc le côté où on sort ses tripes avec les mots et compagnie, et on essaye de s'en sortir avec les mots, et on retrouve ce côté là aussi un peu brut et direct avec la manière de filmer, quoi. Donc voilà, un film que je recommande chaudement, et le mieux pour se rendre compte un petit peu de ce que peut donner le slam et notamment le flow de Saul Williams dans le film, j'ai choisi un petit extrait où justement il se retrouve devant les bobos là dans le bar et à montrer ce qu'il sait faire, quoi.
If I could find the spot where truth echoes, I would stand there and whisper memories of my children's future. I would let their future dwell in my past so that I might live a brighter now. Now is the essence of my domain and it contains all that was and will be. And I am as I was and will be, because I am and always will be that nigger. I am that nigger. I am that nigger. I am that timeless nigger that swings on pendulums like vines through minds of booby-trapped minds that are enslaved by time. I am the life that supersedes lifetimes. I am. It was me with serpentine hair and a timeless stare that with immortal glare turned mortal fear into stone time capsules. They still exist as the walking dead, as I do, the original sufferhead, symbol of life and matriarchy, severed head, Medusa. I am. I am that nigger. I am that nigger. I am that nigger. I am a negro, yes, negro. Negro from necro, meaning death. Right. I overcame it, so they named me after it. And I be spitting at death from behind and putting kick me signs on its back, because I am not the son of shaclack clack. I am before that. I am before. I am before, before. Before death is eternity. After death is eternity. There is no death. There's only eternity. And I be riding on the wings of eternity like, yeah, 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 shaclack, clack. But my flight doesn't go undisturbed, because time makes dreams defer. And all of my time fears are turning my days into daymares. And I live daymares, reliving nightmares that once haunted my past. Shaclack, clack, time is beating my ass. And I be having dreams of chocolate-covered watermelons filled with fried chickens like piñatas, with little pig and any sons and daughters standing up under them with big sticks and aluminum foil, hitting them, trying to catch pieces of fallen fried chicken wings. And Aunt Jemima and Uncle Ben are standing in the corners with rifles pointed at the heads of the little children. Don't shoot the children, I shout. Don't shoot the children, but they say it's too late. They've already been infected by time, but this shit is before my time. I need more time. I need more time. But it's too late. They start shooting at the children and killing them. One by one, two by two, three by three, four by four, five by five, six by six. But my spirit is growing seven by seven, faster than the speed of light, because light only penetrates the darkness that's already there, and I'm already there. I'm here at the end of the road, which is the beginning of the road beyond time, but where my niggas at?
Oh, shit.
Oh, shit, don't tell me my niggas got lost in time. My niggas are dying before their time. My niggas are serving unjust time. My niggas are dying because of time.
Nous sommes toujours sur Timbre FM. Et donc, pour conclure cette émission contre-champ, cette première émission contre-champ, on va parler des sorties du moment au K56.
C'est la sortie du moment en compagnie du cinéma K56.
Bonjour à tous. Notre programmation s'étale du 6 février au 5 mars. Sur cette période, nous allons jouer 32 films différents, preuve de notre volonté de diversité cinématographique. Vacances oblige, notre temps fort sera le festival proposé par l'association Écran 56. Cette année, nous vivrons la 25e édition, un quart de siècle d'accompagnement et de développement du cinéma associatif dans les communes du Morbihan. Le principe est simple. Les films jeunesse sont au tarif de 4 euros pour tout le monde. Au programme des films, pour toutes les catégories jeunesse, les plus petits trouveront des formats plus courts, comme Oscar et le monde des chats ou Les ritournelles de la chouette, alors que les plus grands pourront redécouvrir les derniers succès du cinéma d'animation, comme Astérix et le secret de la potion magique ou Spider-Man, nouvelle génération.
Les enfants pourront-ils voir des nouveautés ?
Bien sûr. Grâce à la réunion des 14 cinémas du Morbihan, nous bénéficions de sorties nationales. Ainsi, nos spectateurs pourront découvrir la suite des mondes de Ralph, de Dragon ou encore la grande aventure Lego.
Et pour les plus grands, est-ce qu'il y a une programmation ?
Alors pour les plus grands, par contre, on continue avec une programmation qui essaye comme d'habitude de satisfaire tous les goûts des cinéphiles. Nous trouverons bien sûr le très attendu « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» ou encore « Nicky Larson et le parfum de Cupidon », nouvelle livraison de la bande à Fifi qui parlera aux anciens du Club Dorothée. Néanmoins, nous proposerons au public de venir découvrir des œuvres un peu plus exigeantes telles que Green Book ou La Mule, dont on parle beaucoup pour les Oscars. Enfin, je me permets de vous faire un focus sur une œuvre, certes moins connue, mais qui pourra intéresser. Il s'agit d'un documentaire réalisé par René Duranton et qui s'intitule « Les sillons de la liberté, dernier paysan breton » que nous diffusons le mercredi 27 février. Dans ce film, nous aurons l'occasion de découvrir Jean-Bernard Huon, 62 ans, fier d'être resté le dernier paysan d'autrefois travaillant à l'ancienne et de faire du bio avec ses 3 chevaux. Il s'agira d'une plongée dans une agriculture que l'on croyait disparue, voire même obsolète, mais qui finalement peut-être va redevenir un peu différente. Nous aurons la chance de vivre ces 2 projections en présence du réalisateur. Ce qui est intéressant dans ce genre de soirée, c'est qu'au-delà du sujet, qui est certainement porteur à notre époque et sur notre territoire, les participants pourront échanger avec le témoin.
En bref, tout un programme de cinéma qui m'a l'air, ma foi, fort alléchant, vu le titre de certains films que j'aimerais beaucoup voir. Mais donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site 2K56, donc www.cinema-k56attaché.fr.
Merci.
De rien. Voilà la rubrique qui conclut donc cette première émission contre-champ sur le western, donc rendez-vous pour une prochaine émission dans 2 semaines.
C'est fini, oui.
Ouais.